précédemment dans le Zapnik.
Règle numéro 1, ne jamais abattre un arbre d'un seul coup de hache.
Putain de merde, on va rester coincé en dessous !
Le meilleur du pire de la radio.
La radio.
C'est sur Radio Panique. C'est le Zap.
C'est le Zapnik. Le meilleur du pire de la radio, c'est sur Radio Panique.
Séisme.
105.4.
Tsunami.
Le Zapnik.
Cyclone.
C'est le Zapnik.
Inondation. Glissement de terrain.
Vous êtes bien à l'écoute du 105.4.
Les pluies diluviennes ou au contraire les sécheresses.
Philippe, roi des Belges, à tous. Présent et à venir, salut!
Que faut-il faire lorsqu'on se retrouve tout à coup au milieu de nulle part, sans secours immédiat? Par où commencer pour s'en sortir? Comment survivre si les secours se font attendre? Que faut-il savoir pour éviter les dangers que représentent la faune et la flore?
Vous écoutez la dernière, il est 18h et quelques et le journal vous est présenté par Guillaume Abdelabgral.
Tout de suite les titres, le salon de la Totomobile, l'assurance d'un futur prometteur du 14 au 24 janvier, la fin de la Belgique planifiée pour 2025 et enfin catastrophe naturelle en Belgique avec la grève du rail. 40 millions, c'est le coût de la grève, un coût qui n'est pas du goût de tous. La Fédération des heureux entrepreneurs de Belgique se demande pourquoi le gouvernement fédéral tarde à se munir d'un barrage anti-grève. Charles Miquet, le Premier ministre à l'écoute de tous, a répondu qu'il ne pouvait agir face au réchauffement du climat des négociations dans le pays. S'il ne peut dresser un parapluie sur l'ensemble du territoire pour le protéger des intempéries, il en va de même de la prévention des coulées de colère rouges qui ensevelissent parfois l'engouement naturel des habitants pour l'économie. Des habitants pris au piège d'ailleurs et qui ont dû s'organiser eux-mêmes, tel Bruno Machin de la Villardière du champ à droite après le moulin, qui a fait du co-hélicoptérage.
C'est sympa! On apprend aussi à se connaître!
Belgique toujours, ou pas vraiment, puisque cette appellation serait vouée à disparaître selon Lisbeth Omans de la NVA. Lisbeth Omans qui a annoncé la date de péremption de la Fédération, le 1er janvier 2015. Bart Vador a réagi en rassurant les Wallons. La NVA publiera prochainement un guide de survie sans revenu d'intégration sociale à l'intention des Wallons. Automobile enfin, avec plein de caisses aux aisselles, de quoi se réjouir à assurer... et assurer à nos bambins des poumons non seulement irradiés, mais aussi gonflés au monoxyde de carbone. Pour certains détracteurs, l'automobile aurait un train de retard. Que nenni ! Répond le porte-parole, juré craché, croix de bois, croix de fer, si je mange, vais en enfer de Volkswagen. La voiture est tout à fait adaptée au monde de demain. C'est même elle qui assurera à l'humanité sa survie.
Votre nouvelle BMW 750. Équipée des subtilités habituelles. Mitrailleuse, fusée, GPS, le fameux système.
Les dangers et risques pour la santé, l'engelure, les brûlures et furoncles causées par l'eau salée, le mal de mer, les maux oculaires, la constipation, la difficulté à uriner ou urine foncée.
On n'est pas nés de la petite cuillère, on est des pros. Je t'explique.
When I die, fuck it, I wanna go to hell. Cause I'm a piece of shit, piece of shit, piece of shit. When I die, fuck it, I wanna go to hell. Cause I'm a piece of shit, it ain't hard to fucking tell. When I die, fuck it, I wanna go to hell. Cause I'm a piece of shit, piece of shit,
piece of shit.
Bonjour à toutes et à tous. Sujet dont on parle peu, mais très important. Je viens de recevoir un email où on me pose la question « Qu'en est-il du papier toilette et la survie ?» La question était plus précise « Doit-on stocker du papier toilette ou des lingettes que l'on va nettoyer, et, etc. en cas de besoin ?» Alors en fait, je vais donner ce que j'ai fait pour ma part.
Coupure de gaz, d'eau, de courant, de cocaïne.
Perte d'argent.
En grandes et petites coupures.
Perte nocturne.
Perte de conscience, de connaissance, de repère, d'altitude.
Perte de l'ouïe, de la vue, du toucher.
Rupture amoureuse, des circuits d'approvisionnement.
Rupture d'anévrisme.
Rupture.
Plus de police, plus de gendarmes, plus de pompiers. Que des gens armés.
Des tornades.
Des ouragans.
Des tremblements.
Des blizzards.
Des inondations, des éruptions cutanées.
Des érections volcaniques.
Des tiramisu.
Des centrales nucléaires.
Des cracks boursiers.
Des pandémies.
Et puis des guerres.
Des guerres atomiques.
Des guerres biologiques.
Des guerres bioatomiques.
Des guerres chimériques.
Des guerres normales.
Des guerres qui font mal.
Des guérillas.
Des attaques terroristes.
Des guerres civiles.
Des zombies.
First I was afraid. I was petrified, thinking I could never live without you by my side.
Ça fait peur, non? Si, ça fait peur. On vit dans le danger nuit et jour et personne ne le sait. Alors, bien sûr, les gens vous croisent et vous disent « Ah tiens, bonjour, salut, comment vas-tu? Alors en forme ?» Qu'est-ce que vous voulez que je leur réponde? Je leur dis « Ouais, ça va bien, très bien. » Seulement si je leur disais, par exemple, que mardi, en allant au bureau, j'ai lu sur un petit carton accroché dans le hall « La concierge est dans l'escalier ». Je jette un œil, elle n'y était pas. Juré, ça fait peur, non? Si je leur disais, je les vois d'ici, ils me diraient « Mais enfin, écoute, arrête, t'exagères, c'est dans ta tête ». Quoi, dans ma tête? Et puis, d'abord, qu'est-ce qu'elle a, ma tête? Et à chaque fois que j'arrive en voiture au carrefour de l'Opéra et que c'est à moi de passer, tac! Le feu passe au rouge. C'est dans ma tête, peut-être? À n'importe quelle heure, du jour comme de nuit. Dès que ma voiture approche du feu, tac, rouge, pourquoi? Hein? Pourquoi? Ça fait peur, non? Si je leur disais, je les vois d'ici, ils me diraient, mais enfin, arrête. Arrête un peu, tu lis trop. Non, justement, je ne lis plus. Voilà, plus un mot, une ligne, rien du tout. La dernière fois que j'ai ouvert un livre, je m'en souviens très bien, c'était dans le train. Je m'en allais à Stuttgart, en Allemagne. Tiens, c'est comme ça aussi. Pourquoi tout le monde dit Stuttgart? Alors que c'est si simple de dire Stuttgart. Pourquoi? Ça fait peur, non? Je me rendais donc à Stuttgart par le train. Je m'étais assis dans le sens inverse de la marche. Non, parce que je m'étais dit, si jamais ils recommencent leur connerie comme en 40, moi je suis tout de suite dans le bon sens pour revenir à Paris. On sait jamais. Je me souviens donc que je lisais un livre léger, distrayant, un livre de Kafka. Un humoriste tchèque, un homme qui savait rire. J'en étais au bas de la page 73, je me rappelle très précisément de la phrase, « Monsieur Samson avait une envie, mourir ». Passionné, je tourne la page, quand c'est drôle, on dévore. Et là, ma respiration s'arrête net, je n'invente rien, il manquait une page, la 74. Tiens, rien que d'en parler, ça me sert là. La 74 disparue comme ça, sans explication, le trou béant en plein milieu d'un récit, le précipice ou emporté par l'histoire, j'aurais pu tomber et disparaître. Ça fait peur, non? Alors que faire? Le dire à la jeune fille qui était assise en face de moi, pauvre petite, à son âge, elle se serait affolée. Appeler le contrôleur, siffler, crier, signal d'alarme, vous imaginez la panique? 200 personnes à garde dans la campagne en train de chercher ma page 74. Non, je ne pouvais pas leur faire ça, alors j'ai serré les poings. J'ai continué à lire, souriant, comme si de rien n'était, pour que ni les passagers du train, ni la petite fille en face de moi ne s'aperçoivent avec effroi que j'enjambais le gouffre qui séparait la page 73 et la page 75. Poverina, tu le découvriras bien assez tôt, le monde et son chariot d'horreur. Si je leur disais tout ça, ils me diraient « Mais enfin, écoute, arrête un peu ton cinéma. » Mais quel cinéma? Est-ce que j'y vais, moi, au cinéma? Je sais ce que c'est que le cinéma, croyez-moi. On nous fout à 300 dans une salle toute noire avec une image qui bouge devant et pendant ce temps-là, ils en profitent pour dire des choses graves et capitales à la télévision. Exprès, pendant que vous n'êtes pas là. Pas avec moi, je m'excuse, désolé, navré. Moi, après une journée complète de trouille, je n'en rajoute pas, je rentre à la maison. D'ailleurs, même chez moi, c'est dangereux. C'est pour ça que je rentre jamais à la même heure. Exprès pour dérouter tous les sadiques, les assassins et les malades qui vous attendent sur le palier. Tenez, encore hier soir, je rentrais chez moi. Il était 9h16, très précise. C'est une heure tranquille en général, et bien vous me croirez si vous voulez, j'appuie sur le bouton de l'ascenseur, en panne. Vous savez, on a beau être habitué à côtoyer 24 heures sur 24 heures le danger, ça fout un coup. Bon, je prends du recul, je maîtrise l'émotion, je fais comme si de rien n'était, je gravis l'escalier, il grinçait, comme par hasard. Que faire, redescendre? Trop tard, j'étais déjà au troisième jeu. Je prends sur moi mes clés, j'ouvre ma porte et là, en un éclair, j'ai une illumination, ne pas allumer. Un pressentiment, une certitude, il est là. Comment qui? Mais l'assassin. C'est celui qui me cherche, celui qui allume les feux rouges quand je passe à l'opéra, celui qui m'a volé ma page 74, celui qui a tué le concierge l'autre jour au bureau par erreur. Oui, car c'est moi qu'il voulait liquider. Parce qu'elle n'y était pas dans l'escalier, la concierge. L'assassin m'attendait chez moi, j'en suis sûr. Y a quelqu'un? Personne ne répond. Il s'est trahi. C'est qu'il est là. Deux, y a quelqu'un, suivi d'un silence, ça ne trompe personne, surtout pas moi. Où aller? Là-bas, au bout du couloir, la cuisine, un tiroir, une fourchette, quelque chose pour me défendre. L'espoir, j'avance à tâtons, la moquette crisse à la lune. Aïe! Je me cogne dans une chaise, elle tombe. Le salaud, il a tout prévu, même les pièges. Je continue. Plus que 50 cm, 20, 10. J'agrippe la poignée, sauvé. J'ouvre la porte de la cuisine aussitôt, je me pétrifie, là, devant moi, une lueur. La porte du frigo, pas entrouverte. Ben, ouverte. Et ça fait vraiment peur. Il est là, j'en suis sûr, caché dans le frigo. Vous imaginez? Si je leur racontais tout ça, dans le bac à viande, le sang, ça les attire. Je l'entends respirer derrière les entrecôtes, je me concentre et hop, clap fermé! Désolé, mon vieux. C'est pas encore pour cette fois. Je sursaute, derrière moi, une porte vient de couiner. Et voilà encore un autre, mais ça finira donc jamais. Je me retourne, une ombre planche sur moi, j'esquive, elle tombe et je lui casse sur la tête. J'allume. Et là, qui je vois, gisant sur le carrelage? Ma femme, ouf! Ce n'est pas l'assassin. Je suis content qu'elle soit là. Muette, tranquille, immobile, parce que ma femme, quand elle bouge ou elle parle, elle me fait peur. Mais là, inanimée, elle me rassure presque. Ça va vite là-dedans, dans ma tête. Vous savez, on finit par s'imaginer des choses. En fait, c'était pas grand-chose, c'est un accident. C'est Josie, ma femme, elle s'était juste prise le pied dans la rallonge de la machine à laver et elle est tombée sur le carrelage en s'assommant. Maintenant, ils m'auront plus. Je reste à la maison, calme, bien au chaud. Je préfère avoir peur chez moi plutôt qu'au restaurant ou dans la rue où vit cette foule de malades. Chez moi, il n'y a que ma femme sur le carrelage, un sadique dans le frigo et puis moi. C'est maîtrisable. Mais enfin, si je leur disais tout ça, ils me diraient « Mais enfin, écoute, t'es dingue. C'est dans ta tête, c'est des idées. » Ils ne se rendent pas compte. Personne ne se rend compte. Ça fait peur, non?
With this music at all use for me grand. This is our song, our salvation. Music is the life that just we occupation.
Yeah. good time. With this music I told you to need grind. This is our song, our salvation. Music is my life, not just my occupation. We're just here, having a good time. With this music I told you to need grind. This is our song, our salvation. Music is my life, not just my occupation.
Journey into sound. A journey which along the way will bring to you new
Je vais donner ce que j'ai fait pour ma part. J'ai stocké une quantité abominablement énorme de papier toilette dans ma base autonome du Raf, dans ma ferme. Parce que, étant entouré d'une épouse et des filles, je me rends compte qu'elles consomment une quantité hallucinante de papier. Et pour la paix des ménages et donc le confort également, j'ai fait en sorte qu'elle puisse avoir énormément de papier, ce qui me permettra vis-à-vis de mon épouse de négocier des faveurs, probablement immondes et sexuelles, et par rapport à mes filles de leur faire plaisir, parce que je les aime bien.
Et bonjour à toutes et à tous, et bonjour Charles-Édouard.
Bonjour Jean-Denis.
Aujourd'hui, une édition spéciale de votre magazine lifestyle préféré sur le thème survival, ou survie en français, je parle tellement mal anglais. Alors pourquoi ce thème? Eh bien, les différentes tensions internationales sont plus tendues que jamais, le climat devient fou, mais surtout j'ai vu un film nommé Mad Max, c'était vraiment effrayant et mon Dieu... Les vêtements, c'était horrible. Pas un costume correctement taillé, c'est vrai.
Rien.
Plus de boutons de manchette, plus de jolis pulls. Alors la question se pose, peut-on survivre à l'apocalypse sans être habillé comme un clodo? Peut-on garder la classe? Parce que la classe, c'est une question de...
Volonté.
Pour nous aider à répondre à cette question, nous recevons aujourd'hui une invitée spéciale, volonté et détermination. Une invitation spéciale. Bonjour Maxine Postapo.
Bonjour.
Alors Maxine Postapo, vous êtes spécialiste en survie et vous êtes ici pour nous apprendre à survivre à une apocalypse nucléaire, je crois, une invasion de zombies éventuellement, ou encore une attaque extraterrestre.
Ouais. En fait, il s'agit surtout d'apprendre l'autonomie, le fait de pouvoir vivre en sécurité dans un environnement hostile, se nourrir en autarcie, sans reposer sur quoi que ce soit.
Oui. Eh bien, tout cela nous amène à la rubrique préférée de Charles-Édouard, la séquence shopping.
La séquence shopping. Alors, Maxine, vous êtes venue avec tout un tas d'objets à posséder absolument pour la survie.
Oui, tout à fait. Pour commencer, un élément essentiel.
Un must-have, yeah.
Oui. Une combinaison étanche d'hommes-grenouilles, enfin en ce qui me concerne de femmes-grenouilles. Mmh. En effet, ce genre de combinaison possède de multiples avantages. Une étanchéité parfaite, une protection thermique...
Et puis, ça peut vous protéger contre une morsure de zombies. Hein.
Ça adore mordre les zombies.
Ah oui.
Et vous savez, c'est un peu comme le bébé de ma sœur. Dès qu'il a quelque chose en main, il faut qu'il le mette en bouche.
C'est un peu comme vous avec les petits fours. Hein.
ou vous avec une bouteille de champagne.
ou vous avec... poursuivez, madame, poursuivez.
En fait, c'est plutôt pour vous protéger contre un choc thermique si vous tombez dans un trou rempli d'eau, par exemple. C'est pourquoi je conseille de le porter constamment.
Vous voulez dire que vous allez sortir avec?
Oui, bien sûr.
J'aurais plusieurs remarques, peut-être...
Oui, c'est très cintré tout de même. Hein. Je sais que le gros avantage de l'apocalypse, c'est la pénurie de nourriture.
Ah ouais, hein. Ça, c'est régime pour tout le monde.
Hein. Alors, il faudra donc quelques mois quand même avant de pouvoir l'enfiler. Hein. Personne n'a envie de ressembler à un boudin pomme. Et puis, c'est coloré. Hein.
Excusez-moi de vous le dire, c'est pas très tendance.
Ah oui, le noir, c'est pas une couleur. Hein. Et puis, ça va, personne.
Tout le monde le sait.
Est-ce que c'est disponible dans d'autres coloris seulement?
Bien, en fait, la couleur noire permet de capter la chaleur provenant du soleil, mais également de pouvoir stocker cette énergie.
Ou alors, quitte à sortir avec, peut-être peut-on s'habiller correctement par-dessus,
ah oui,
au moins.
Oui, bonne idée, un peu comme James Bond, avec un smoking par-dessus, votre combinaison par exemple.
Oui, je suppose, mais vous allez perdre certains avantages qui peuvent être décisifs pour votre survie.
Peut-être, hein, mais moi, je préfère mourir mordu par un zombie que de sortir comme ça. Moi,
moi aussi,
tout de suite,
moi aussi, mais
ça c'est clair.
Bon.
Hein.
Allez, passons à l'objet suivant. Maxine, qu'est-ce donc que cela ?
Eh bien, Jean-Denis, ce sont des jardinières avec quelques graines et des sacs de terreau. En effet, qui dit vie en autarcie dit jardinage. Et ces jardinières de 2 mètres sur 1 permettront à ceux qui n'ont pas de jardin, ceux qui vivent en appartement par exemple, de pouvoir survivre également.
Ça c'est très bien. Bon, même si je ne côtoie pas beaucoup de gens qui vivent en appartement, mais bon, comment pourrait-on survivre à l'horreur sans un peu de beauté florale ? C'est ça, un peu de beauté dans ce monde, même après l'apocalypse. Alors, cher Edouard, c'est vous qui allez être content. Vous devriez voir la taille de son massif de rosiers. C'est quelque chose.
Merci, hein. Mais j'ai de très beaux rhododendrons également, hein, pour le moment.
C'est surtout pour planter des légumes pérennes. Oignons, riz sauvage, champignons, des aliments simples et nutritifs.
Mais vous savez qu'on peut manger certaines fleurs en accompagnement.
Oui, mais il peut y avoir des choses très jolies qui se mangent même en salade. Hein.
Et ça se fait même dans les plus grands restaurants.
Peut-être, mais son apport nutritionnel est assez faible comparé à...
À quoi ? À un oignon ? Hein ? Vous avez déjà vu une fleur d'oignon ?
Mais c'est très laid.
C'est très laid.
There's a pyramid of power with eyes that can see it all. Cameras to capture your image at City Hall. Realize they listen whenever you make a call. If you want a revolution, I'll really give it to y'all. Strength is the army that bands against bands of their presidents. Determining life of mankind of cancerous. How we breathe vapors. Greed got us bleeding in streets for cheap paper. Assemble the masses, melt the plastic. Compound, realign when the shit gets drastic. Lift the veil when the system's a mess. It's just another pyramid scheme, a government racket. Bound with the power of a Charles Jurassic. Nation T-Rex with covert tactics. Rise from the ashes to get the Atlas.
Bring the madness.
Si la crise est plus longue et indéfiniment longue, à ce moment-là, bien sûr, vos stocks, quels qu'ils soient, et croyez-moi, ils sont impressionnants chez moi, je dois avoir pour une année ou deux de papier toilette pour une dizaine de personnes. Mais enfin, c'est simplement parce que c'est un des premiers trucs que j'ai stocké il y a déjà pas mal d'années.
Et oui, et je me suis fait chier.
La peur que nous inspirent les nains est reliée à leur aspect étrange, pour ne pas dire répugnant, mais elle résulte également du fait que nous manquons d'informations à leur sujet, de sorte que même les sujets les plus inoffensifs suscitent beaucoup de méfiance. Notre crainte généralisée de tous ces nains n'est cependant plus justifiée quand on apprend à les connaître et à identifier les plus dangereux. En réalité, la plupart des histoires que l'on raconte sur les nains dangereux relèvent de la fiction. En effet, très rares sont ceux qui s'étant trouvés en situation de survie ont été blessés ou tués par des nains sauvages. Disons que la plupart des nains sont agressifs s'ils sont traqués ou coincés. Beaucoup d'entre eux deviennent dangereux lorsqu'ils doivent protéger leurs petits ou quand ils sont blessés. Dès lors, ne tirez pas sur un nain, à moins d'être sûr de le tuer. Dans tous les cas, à cause de leur caractère vicieux et mesquin, éloignez-vous des nains. Ne les approchez qu'avec méfiance, car ils peuvent attaquer par surprise. Rappelez-vous des règles suivantes lorsque vous rencontrez un nain dangereux. 1. Ne vous affolez pas. Ne vous précipitez pas. Retirez-vous calmement et lentement hors du lieu de danger. 2. Faites en sorte que le nain ne se sente ni traqué, ni menacé.
En cas d'attaque nucléaire, rien de tel qu'un bon vieux couteau suisse. Un bon vieux couteau suisse, oui, mais un couteau suisse survivaliste. En effet, le couteau suisse survivaliste deviendra rapidement votre indispensable allié en milieu hostile, le dernier rempart contre votre futur ennemi, qu'il soit animal, minéral, extraterrestre ou humain. Avec ses 4222 fonctions qui fait de lui le couteau suisse le plus balèze de l'histoire, le couteau suisse survivaliste peut répondre à toutes les questions, mais seulement par oui ou non. Couteau à découper le pain, couteau à découper le beurre, couteau à découper le saucisson, four, micro-ondes, planche à voile, anti-fourmi, couvre-boîte, console Atari, cure-dents, four à pain, pomme de douche, sirop d'orgeat, le couteau suisse survivaliste ne cessera de vous étonner et de vous aider à tuer l'ennui. Que de belles parties de cache-cache en perspective grâce à sa toute nouvelle fonction caméléon. Le couteau suisse survivaliste, les 100 premiers à le commander le recevront et survivront.
Tendre des pièges. Pour tendre des pièges avec succès, vous devez d'abord décider de quel genre d'animal vous désirez. Vous devez également être capable d'utiliser les appâts appropriés. Rongeurs et lapins se piègent aisément, les habitudes des petits mammifères ne varient guère de leur champ d'activité. Repérez leur emplacement ou leur piste, puis abattez-les. Ils ne foutent quasiment rien, ils sont faciles à attraper. Quelques conseils. Pour attraper un mammifère vivant au creux d'un arbre, bon courage. Il faut pouvoir les attirer en les faisant fuir le feu, puis agripper la peau de l'animal et la retirer sur place. Deuxième technique, les asphyxier. Puis, leur tendre un piège sournois et les assommer au passage. Appâter un hameçon avec un veron ou une vache anglaise et laisser le porter près de la surface de l'eau. Les goélands, les corneilles et autres oiseaux du genre viendront s'y alpaguer. La nuit, installez vos pièges sur les pistes fraîches, tout doucement, discrètement, voilà, voilà, tranquille. Place tes collets dans des endroits où t'as déjà dépecé un animal. Là, les entrailles des animaux font de bons appâts à l'odeur. Et de chaque côté du piège érigé, mets des petites barrières faites de branches mortes, de bâtons et de feuilles que tu disposeras en forme d'entonnoir pour amener le gibier vers le piège. Ensuite, pour neutraliser votre rôdeur, répandez tout autour le sang d'un animal ou le contenu de sa vésicule biliaire. Cette précaution est bien sûr inutile s'il pleut. N'oubliez surtout pas les autres types de pièges, le piège à ressort, le collet à pâté, la trappe à ressort et à javeline et la trappe à saumoir.
Flash spécial, c'est avec une tristesse immense et une émotion que nous ne saurions dissimuler que nous sommes au regret de vous apprendre la disparition de notre reporter, Antonin Vincent Carlos Vandenmeckelen. Parti en effet le 12 avril à la recherche des nafteurs perdus de la station Arlois, il n'est jamais revenu. Nous avons perdu tout signal le 15 avril, du fait certainement de l'épuisement des batteries de ses appareils de communication. Alors, est-il encore en vie? A-t-il trouvé les naveteurs perdus? Un timide espoir de le voir ressurgir est entretenu par l'imminence de la fin des travaux programmés pour 2020 et par l'existence d'un passage secret vers le musée des égouts de Bruxelles et la station Rogier.
Bienvenue dans Un livre, un auteur. Un auteur, un livre des pages, un seigneur. Une émission qui rend ses lettres de noblesse, je pense, à l'écriture, que dis-je, à de la littérature. Et c'est moi, Ernest Debouc, qui vous guidera dans cette émission où j'exercerai une fois de plus mon droit de cuissage littéraire en déflorant un livre ou un bouquin, en coupant votre compagnie, petit à petit, les pages. Aujourd'hui, nous nous intéresserons au récit épique. Mais pas n'importe lequel, celui autobiographique, le récit de celles et ceux qui ont traversé des épreuves difficiles de la vie, des épreuves extrêmes, ceux qui ont frôlé la catastrophe sans s'y noyer, ceux qui ont survécu pour en ressortir grandi et nous grandir également de leurs témoignages écrits. J'ai l'immense honneur de recevoir Marie-Lise Van den Teschen.
Bonsoir Ernest.
Bonsoir. Marie-Lise, vous êtes accompagnée de Victor Victor, votre éditeur à la ville, et Marie à la campagne.
Il ne l'est plus.
Il n'est plus votre éditeur?
Non, il n'est plus à la maison.
Votre mari?
Exactement.
Vous êtes toujours ensemble?
En ce moment.
Et autrement?
Pas vraiment.
Ah. Je me tourne donc vers celui qui n'est pas vraiment votre mari.
Plus?
Vous dites plus?
Plus vraiment.
Je me tourne donc vers celui qui n'est plus vraiment votre mari, mais qui est vraiment votre éditeur, il me semble, non? Je me tourne d'autant plus vers Monsieur Victor Victor qu'il est derrière moi. D'ailleurs, que faites-vous derrière moi? Asseyez-vous donc.
Pardon.
Alors ce livre de Marie-Lise van den Taschen, Effroi dans le beffroi, c'est aussi vous qui l'avez voulu?
Oui.
C'est surtout lui, hein.
Oui.
Mais Marie-Lise van den Taschen, pourquoi lui?
Le désespoir. Après ce qui m'est arrivé, j'avais une inextinguible soif de consolation.
C'est le lot de chacun, Marie-Lise.
Et c'est lui qui a voulu que je raconte. Moi, je ne voulais pas. Moi, je voulais oublier.
Oui. C'est vrai.
Bien sûr, et pouvez-vous me rappeler ce que vous vouliez oublier?
Non.
Comment non, Victor? Je pense qu'après l'écriture, Marie-Lise est assez forte.
Ouais, mais vous allez tout spoiler.
Il n'y a rien à spoiler, c'est une autobiographie. Marie-Lise est là, ça veut dire qu'elle n'est pas morte.
Dans un monde rempli d'incertitudes, où les valeurs sont bafouées, il est possible de sortir de chez soi la nuit, de désirer acheter des frites.
Voilà, on est à la friterie de la Barrière. Et aujourd'hui, le 30 décembre 2015, je suis avec un monsieur, voilà, qui est comme moi à la friterie de la Barrière de Saint-Gilles. Et on nous apprend...
Il n'y a pas de frites.
Et pourtant, on est quand même là. Et on leur demande de nous préparer autre chose, c'est-à-dire de la viande frite, c'est-à-dire du biki frite, du polycroque. Et ces dames le font quand même. Et je me pose la question, parce que je crois que la question doit se poser, est-ce que c'est arrivé souvent, cette friterie sans frites? C'est même tellement incroyable qu'on a du mal à le dire. Une friterie sans frites. Bonjour madame. Voilà, ce soir il n'y a plus de frites. Non, mais il y a d'autres choses, mais il n'y a plus de frites.
Non.
Mais donne-moi un poulet croque.
Mes frites.
Un biki, quelque chose, que je me rassasie. Je le savais que ça nous pendait au nez.
C'est la catastrophe.
Alors vous êtes donc dans le beffroi, et là, l'eau monte.
Oui, à une vitesse étonnante.
Comme des chevaux, poursuivis par le vent.
Et qu'est-ce que vous faites?
Eh bien, je monte.
Les marches?
Comme si son cœur dansait sur le feu.
Et c'est là que vous faites face à une nuée de chauves-souris.
Telle une tornade animalière.
Merci Victor, merci. Je pense que les auditeurs aimeraient, tout comme moi d'ailleurs, entendre le témoignage de Marie-Lise van den Taschen, votre ex-femme, je le rappelle.
Oui.
Très bien.
Vous pouvez poursuivre, s'il vous plaît. D'où venaient ces chauves-souris?
Le beffroi avait pris feu, frappé par la foudre.
Qui s'était abattu de la main de Dieu?
Vous êtes donc en train de vous réfugier d'une mort certaine par noyade, courant vers le feu, évitant des animaux qui vous harcèlent, vous effraient. Quel est votre sentiment à ce moment-là? À quoi pensez-vous?
Je ne pense à rien. Je ressens, j'agis, et soudain les marches décollent. Tout se renverse. Un tremblement de terre a provoqué un geyser qui a propulsé le beffroi en l'air.
Tel un javelot olympien, mouvement de l'homme touché par la grâce.
Mais arrêtez,
divine.
À lapin. C'est qui a écrit ce bouquin?
Mais c'est lui! C'est lui qui a écrit ce bouquin! Moi, j'en ai rien à foutre de ces histoires de beffroi à la con et de ces métaphores de romans de gare. C'est juste qu'il a pas de couilles pour assumer sa prose pourrie d'adolescent débile, hein? T'as pas de couilles!
Marie-Lise.
Mais quoi, ça n'a jamais été mon histoire. C'est lui qui a tout écrit. Regardez, il m'a scarifié pour faire croire que c'était vrai. Mais personne n'y croit à ces histoires de beffroi inondé en feu avec des chauves-souris.
Mercredi 30 décembre 2015. Toujours à la friterie.
Il n'y a pas de frites?
Il n'y a pas de frites. C'est une friterie sans frites.
Il n'y
a plus de frites.
Sérieux?
Non, sérieux. Mais bon, après, il reste toutes les désagréments d'à côté.
Il
n'y
a plus de frites?
Non, il n'y a plus de frites. Enfin... Non, c'est vrai, ils ont été apparemment grosse commande à la journée. Mais regardez, elles sont quand même toujours au travail, concentrées, et elles sont prêtes à servir.
Non, je ne crois pas.
Non, c'est pas une blague. On va, je vais...
Ah
ben, moi aussi.
Vous peinez à ouvrir les yeux, à voir la vérité en face. le danger qui nous guette à chaque instant. Au coin de la rue, l'irréversible, l'anormal, la destruction de toutes les croyances.
Une frite, madame ?
J'invente pas, hein. Du coup, vous n'essayez même pas. Vous, le poulicroc, ça vous intéresse même pas, quoi.
Bawano !
Pokarai. Pokarai, pas de frites. Pas de fricarai.
Il n'y a plus de frites, ah, comme ça, je le
voilà.
sais.
C'était en direct de la friterie de Saint-Gilles, une friterie sans frites pour un soir. Et je vous dis à demain pour la suite des aventures des friteries, frites, pas frites, burgers sans frites.
Il rigole, mais ça fout les boules. Et nous recevons aujourd'hui dans Un livre, un auteur qui se livre, Victor Victor.
Bonsoir.
Une émission autour de la vie fantasmée, de la biographie fictive, de l'autofiction délirante. Vous êtes accompagné de votre éditrice et de votre femme à la maison, Marylis Van Den Taschen.
Rien, à part un beau chapeau.
Relativement courte, c'est toujours intéressant d'avoir au moins un rouleau de toilette dans son sac d'évacuation.
Le survivalisme, oui, mais comment et face à quelle catastrophe? Alors, pour en débattre, nous avons autour de la table Monsieur Crusoe.
Bonsoir.
Vous avez passé 28 ans sur une île déserte sur la côte de l'Amérique et vous pourrez donc nous en parler.
Exactement.
Nous avons également Monsieur Rick Grimes.
Bonsoir.
Vous êtes shérif adjoint du comté de King, envahi par les zombies, et vous nous expliquerez les spécificités liées à cette situation. Et également parmi nous, nous avons Max Rokatansky.
Ouais.
Vous êtes un ancien policier de la route, ayant œuvré dans un monde post-apocalyptique.
Ouais, c'est ça, mais appelle-moi Mad. Mad Max.
Très bien, et on poursuit avec la présentation de Monsieur Kenshiro.
Bonsoir.
Vous êtes mieux connu sous le nom de Ken le survivant pour avoir survécu à une attaque nucléaire. Nous verrons cela ensemble.
Avec plaisir.
Tout le plaisir est pour nous, Kenshiro.
Appelez-moi Ken.
Ken.
Merci de votre compréhension. Je préfère les rapports directs, oui. Le tutoiement du corps à corps.
Merci, Emeline, pour cette traduction fidèle.
Elle est vraiment bonne.
Alors revenons au sujet qui nous préoccupe tous, qui nous échauffe les babines. À quoi devons-nous nous attendre? Que faut-il craindre? Monsieur Mad, peut-être?
Peu importe la catastrophe, le problème viendra certainement de la rareté de l'eau.
Dit Ken, en se marrant, on manquera d'eau mais pas de pétrole.
C'est vrai.
C'est vrai que certains préfèrent la marche à pied aux moyens motorisés. Peut-être parce qu'ils savent pas conduire. Je dis ça, je dis rien, Ken.
Je préfère ne pas traduire.
On se calme, s'il vous plaît. Ken, pourriez-vous être plus précis?
Bien sûr.
Allez-y.
Le risque, c'est l'effondrement technologique, la rareté organisée, une oligarchie qui profite de la situation pour maintenir une domination que les conditions historiques rendent caduque. Derrière l'idéologie de M. Max se cache la justification nauséabonde de la discrimination et le désir de ramener les classes populaires à l'état animal, bactérial, moléculaire. La catastrophe, les gens comme M. Mad, ils l'appellent de leur vœu, et d'ailleurs ses amis juifs conspirent en ce sens.
Ouais, merci Emeline.
Sûr du caractère électif de leur peuple, la négation même de la démocratie prend ses racines dans la conception religieuse de l'interprétation que font les sionistes de la Torah.
Emeline,
les médias aux mains de cette diaspora mesquine détentrice des pouvoirs de l'économie et de l'attention des puissants.
Emeline, ça suffit, vous êtes traductrice, vous n'êtes pas écrivain. Alors vous voyez bien d'ailleurs que M. Ken s'est endormi. Bon alors, nous allons donner la parole plutôt à M. Crusoe. Alors M. Crusoe, que craignez-vous? La rareté de l'eau, la rupture technologique?
Ce que je crains le plus, c'est le réchauffement climatique, une montée des eaux subites qui nous isolerait chacun sur des territoires parcellaires et ranimerait le cauchemar que j'ai vécu, ce naufrage qui met mal à la fois l'accès aux ressources premières comme l'eau potable et le contact avec les autres humains, nos congénères.
Pouvez-vous nous parler de la solitude du survivant afin de donner quelques pistes à nos amis survivalistes qui cherchent la meilleure préparation au pire?
Et il y a la solitude du moment, puis la solitude de l'après, lorsque le survivant retrouve la société et que personne ne peut le comprendre.
Mais excusez-moi, mais vous avez eu tout de même vendredi.
Justement, parlons-en. Depuis mon divorce, j'ai vendredi une semaine sur deux.
Vous voulez dire que le temps dure longtemps?
Oui, c'est comme si le jeudi n'en finissait pas de finir.
Comme s'il durait près d'un million d'années?
Oui.
Alors maintenant, nous allons interroger Rick Grimes. Alors, Rick Grimes, vous n'êtes pour l'instant pas encore intervenu.
Je flippe.
Pardon?
Je flippe!
Mais pourquoi?
Mais je me demande si Ken le survivant n'est pas un zombie!
Monsieur, un peu de calme, s'il vous plaît. Hein.
Mais les zombies, ça n'existe pas.
Et Monsieur Ken, le complot juif, non plus, hein. Booty.
Vos problèmes risquent d'être, est-ce que vous êtes encore capable de chasser l'eau et d'évacuer vos excréments? Sinon, votre problème, ce n'est pas d'avoir les fesses propres, votre problème, c'est d'avoir des toilettes qui vont déborder et que vous ne pourrez plus utiliser de toute façon. Donc, réfléchissez à ça avant.
Robinson hésita plusieurs jours au seuil de ce qu'il appellerait plus tard la voie végétale. Il revenait tourner autour du quillet avec des airs louches, finissant par trouver du sous-entendu aux branches qui s'écartaient sous les herbes comme deux énormes cuisses noires. Enfin, il s'étendit nu sur l'arbre foudroyé dont il serra le tronc dans ses bras, et son sexe s'aventura dans la petite cavité moussue qui s'ouvrait à la jonction des deux branches. Une torpeur heureuse l'engourdit. Ses yeux mi-clos voyait un déferlement de fleurs aux chairs crémeuses qui versaient de leurs corolles inclinées des effluves lourds et entêtants. Entr'ouvrant leurs muqueuses humides, elles semblaient attendre quelques dons du ciel que traversaient des vols paresseux d'insectes. Robinson n'était-il pas le dernier être de la lignée humaine appelé à un retour aux sources végétales de la vie ? La fleur est le sexe de la plante. La plante, naïvement, offre son sexe à tout venant, comme ce qu'elle a de plus brillant et de plus parfumé. Robinson imaginait une humanité nouvelle, où chacun porterait fièrement sur sa tête ses attributs mâles ou femelles, énormes, enluminés, odorants. Il connut de longs mois de liaison heureuse avec le quillet. Puis vinrent les pluies. Rien n'était changé apparemment. Pourtant, un jour qu'il gisait, écartelé sur son étrange croix d'amour, une douleur fulgurante lui traversa le gland et le remit d'un coup sur ses pieds. Une grosse araignée tachetée de rouge courut sur le tronc de l'arbre et disparut dans l'herbe. La douleur ne se calma que plusieurs heures plus tard, cependant que le membre blessé prenait l'aspect d'une mandarine.
Oh yeah!
La plupart des bongarous sont ornés de traits noirs et blancs, ou noirs et jaunes. Leur épine dorsale rigide est garnie d'un rang de longues écailles. Leur petite tête est à peine plus large que leur cou. Ils atteignent de 120 à 150 cm de longueur et parfois même 180 cm. On les retrouve dans la jungle. Le bongarou des Indes se déplace surtout la nuit. Il préfère la race campagne à l'épaisse brousse de la jungle. Souvent, on peut le voir rôder dans la nuit près des endroits habités et se glisser dans les sentiers. Les bungarous sont venimeux, mais non agressifs, et ils ne mordent que lorsqu'on leur marche dessus.
Dat was een kus om van te dromen. Kom ik die zoen.
Robinson sentit son âme légère s'envoler vers une lourde nef de nuages qui croisait dans le ciel avec une majestueuse lenteur. Un fleuve de douceur coulait en lui. C'est alors qu'il eut la certitude d'un changement dans le poids de l'atmosphère peut-être, ou dans la respiration des choses. Il était dans l'autre île, celle qu'il avait entrevue une fois et qui ne s'était plus montrée depuis. Il sentait, comme jamais encore, qu'il était couché sur l'île, comme sur quelqu'un, qu'il avait le corps de l'île sous lui. C'était un sentiment qu'il n'avait jamais éprouvé avec cette intensité, même en marchant pieds nus sur la grève, si vivante pourtant. La présence presque charnelle de l'île contre lui le réchauffait, l'émouvait. Elle était nue, cette terre qui l'enveloppait. Il se mit nu lui-même, les bras en croix, le ventre en émoi, et l'embrassait de toutes ses forces, ce grand corps tellurique brûlé toute la journée par le soleil et qui libérait une sueur musquée dans l'air plus frais du soir. Son visage fermé fouillait l'herbe aux racines et il souffla de la bouche une haleine chaude en plein humus. Et la terre répondit, elle lui renvoya au visage une bouffée surchargée d'odeurs qui mariait l'âme des plantes trépassées et le remugle poisseux des semences, des bourgeons en gestation. Comme la vie et la mort étaient étroitement mêlés, sagement confondus à ce niveau élémentaire. Son sexe creusa le sol comme un soc et s'y épancha dans une immense pitié pour toute chose créée. Étrange semaille à l'image du grand solitaire du Pacifique, s'y gît maintenant assommé celui qui épousa la terre, et il lui semble minuscule grenouille collée peureusement à la peau du globe terrestre, tournée vertigineusement avec lui dans les espaces infinis.
Simplement, bien sûr, de faire attention, encore plus dans ce cas-là que dans toutes les autres situations, de très très bien vous laver les mains après être allé aux toilettes.
C'était le Zapnik en trio. Avec des textes de Jean-Michel Ritz, Michel Tournier, la traduction de Léandre Michaud du guide de survie de l'armée américaine, le docteur débile et le colonel...
Ketchup, je ne me souviens plus.
Les voix de Marie-Ève, qu'on dit très vite parce qu'elle n'a pas encore de surnom de sobriquet. Michael.
George.
Et moi-même, les États-Unis. Bravo.
Notre meilleur générique.
Et on vous donnera pas les titres des musiques non plus.
Et voilà, et j'espère que vous avez tout compris. De toute façon, qui écoute, hein.
C'était la dernière émission, l'émission de la survie.
Bientôt c'est fini, donc.
Allez, il est l'heure. Dans 15 jours, il est l'heure.
Ciao.
C'est terminé! Rien n'est terminé! Rien! Tout continue à cause de vous!